les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous et bonne fête Nat, hein, dernière de la saison pour les héroïnes avec un plateau d'exception aujourd'hui. Nous avons Lucie Loipre, journaliste à Canal B, productrice de l'excellente émission quotidienne d'info locale La Reine. Bonjour Lucie.
Bonjour Morgane.
Nous avons Marine Combe, rédactrice en chef du brillant magazine féministe Rennais YEG, à lire sur yegmag.fr. Bonjour Marine.
Bonjour.
Et nous avons Suzanne Joly, fondatrice des ateliers de formation à l'égalité filles-garçons, à l'éducation à la sexualité et à la vie affective, Suzette décolle les étiquettes, cofondatrice du festival Haut-Parleuse et autrice du génial livre L'amour, la sexualité, on s'en parle, paru en mars dans la collection Sans tabou des éditions Magenta. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Une émission riche à l'image de cette saison, de ce plateau, pendant laquelle on parlera culture et spectacle, on parlera retraite, on parlera prison et on parlera backlash et masculinisme. C'est dense comme programme. Moi, je vais commencer avec une petite actu, une petite bonne nouvelle. C'est une première européenne, ça se passe en Belgique. C'était le 29 juin, le Parlement belge a adopté une loi Stop Féminicide, totalement inédite. Alors, on dit en Europe, mais je pense que c'est dans le monde. D'abord parce que cette loi, elle propose une définition précise du féminicide et des violences qui le précèdent. Donc, violences sexuelles, psychologiques, etc. Ensuite, elle va distinguer quatre types de féminicide. Le féminicide intime, par un partenaire, le féminicide non intime par un tiers, donc ça peut concerner une travailleuse du sexe qui serait tuée par un client. Elle va distinguer également le féminicide indirect survenu après des faits de violence, par exemple, enfin les exemples qui sont donnés, c'est l'avortement forcé, des mutilations génitales, et enfin l'homicide fondé sur le genre, un homme transgenre qui meurt dans le contexte de la violence du partenaire. Cette loi, elle propose aussi une collecte de données et deux publications, dont un rapport quantitatif annuel sur les statistiques liées au féminicide. Alors ça va être les caractéristiques des victimes, des auteurs, quelles étaient leurs relations, et un rapport qualitatif pour mesurer l'efficacité des dispositifs mis en œuvre. Et ça, en fait, ça va permettre de mieux connaître le phénomène et donc de mieux savoir le combattre. Cette loi, elle prévoit également une meilleure prise en charge des victimes de violences de genre et des formations pour la police afin de mieux identifier les violences qui précèdent les féminicides et pour mieux protéger les victimes. On espère que ça va marcher parce que c'est pas trop le cas, notamment en France. Et justement, en France, pour rappel, en moyenne, une femme est tuée tous les 3 jours par son conjoint ou ex-conjoint. Selon le décompte de Nous Toutes et Interorga Féminicide, qui définissent le féminicide comme le meurtre ou le suicide forcé d'une femme en raison de son genre, quel que soit son âge et les circonstances, au 29 juin, 66 femmes ont été tuées en France. Et encore pour rappel, en 2022, 147 femmes sont mortes, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Donc on félicite les Belges une fois encore, et on se demande quand est-ce que la France va prendre exemple sur la Belgique ou l'Espagne. Je ne sais pas. Voilà, on va parler culture maintenant avec vous, Suzanne. Vous êtes allée voir des spectacles et vous aviez très envie de nous raconter parce que c'était vachement bien.
Ouais, et en plus c'est du Made in Rennes, donc ça c'est cool. Et oui, j'ai eu l'occasion d'aller voir deux spectacles de théâtre dernièrement. Le premier, il s'appelle Désir pluriel. Il est réalisé par Anne-Laure Patti, qui est donc comédienne, et c'est mis en scène par Leslie Evrard. Et en fait, c'est un spectacle qui, comme son nom l'indique, se base sur le... Enfin, s'exprime en tout cas sur la notion de désir sexuel et notamment par le témoignage de plusieurs femmes. Et donc, Anne-Laure, elle est seule en scène et c'est ce qu'on appelle du théâtre d'objets. Donc, elle va d'objet en objet et puis chaque objet raconte une histoire. Et du coup, c'est hyper chouette parce que déjà, c'est un spectacle qui est court mais qui en même temps met en lumière plusieurs témoignages de femmes et leur rapport hyper intime à cette question du désir sexuel qui est du coup hyper complexe. Et en même temps, bah, ça passe par différentes époques de la vie, que ce soit l'entrée dans la parentalité, l'entrée dans la sexualité, la révélation d'une orientation sexuelle, etc. etc. Donc voilà, on est baigné dans ces récits à la fois d'un point de vue audio, mais aussi par cette approche par l'objet. Et donc Anne-Laure, elle a pour vocation de faire évoluer ce spectacle et de le proposer dans des structures ou lieu de diffusion, mais avec à la clé aussi des moments d'échange, proposer des cercles de parole pour aussi ben voilà, permettre à d'autres femmes ou d'autres personnes de s'exprimer sur ce sujet-là qui est le désir sexuel dans toute sa complexité. Et pour encore une fois sortir un petit peu plus des récits intimes et voir qu'il y a plein de points communs entre toutes ces questions-là. Et le deuxième spectacle, c'est le titre, c'est Préliminaire pénétration orgasme. Donc
tout un programme.
Voilà, tout est dit. C'est Claire Morel qui est en scène et c'est porté par la compagnie La Centrifugeuse. Donc elle est seule en scène aussi et en fait elle passe du coup en revue ce fameux script sexuel hétérosexuel, on va dire, à déconstruire. Et c'est à la fois un mélange de stand-up et de théâtre. Donc, il y a quelques décors sur scène, on va dire, mais c'est aussi beaucoup d'interactions avec le public. Et c'est très humoristique, en fait. Mais pour autant, tous les sujets sont passés en revue, que ce soit la découverte du corps, de la masturbation, la première fois, le rapport à la pénétration, bien sûr, à la pornographie, au consentement, aux violences, au plaisir, etc., etc. C'est un cours d'éducation à la sexualité en soi. Donc vraiment, si vous avez envie d'offrir ça à des personnes qui doivent se déconstruire, on va dire, sur ces questions-là, n'hésitez pas, parce qu'en plus, c'est super drôle. Même si y a des sujets lourds aussi qui sont abordés, mais c'est très bien fait. Et puis c'est un spectacle qui peut aussi être adapté à un public scolaire, notamment des lycéens. Enfin voilà, le format est adaptable pour aussi proposer ça à des collégiens, collégiennes ou lycéens, lycéennes et justement proposer ces questions-là pour sortir de ce scénario qu'on a l'habitude de voir partout.
C'est la question que j'allais vous poser, c'est à partir de quel âge on peut emmener un jeune ou une jeune voir ça. J'ai envie de dire un jeune, parce que si on parle de désir féminin et de pénétration, il faut qu'ils apprennent des choses. Plus ils les apprennent tôt, enfin tôt, c'est quoi ces niveaux?
Désir pluriel, je dirais plutôt à partir du lycée.
Ouais.
Et jeunes adultes et adultes. Et puis, préliminaire pénétration orgasme, ça dépend de la formule du coup qui est choisie. Il y a la formule adaptée pour les collèges, on va dire, et puis la formule adulte. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Et donc, voilà, si jamais vous avez un lieu de diffusion et que vous cherchez à aborder ces sujets-là de manière artistique, ça peut être une super belle entrée en matière.
Bah, carrément. Merci, Suzanne.
Avec plaisir.
Avec vous, Lucie, on va aborder un thème qui nous a tenu toute la fin d'hiver et début de printemps. C'est une chronique que vous avez en tête depuis pas mal de temps, et c'est les retraites, mais vu par un prisme particulier. Et je vais essayer de faire honneur à votre chronique en lançant les sons au bon moment. Je m'en excuse par avance si c'est pas le bon moment.
L'enfant passait ses vacances dans cette maison, celle de ses grands-parents. Il était 17h hier, lorsque sa grand-mère l'a vu pour la dernière fois jouer dans le jardin.
Des fleurs, là où est mort Naël, 17 ans. Les enquêteurs de l'IGPN ont établi une chronologie.
Cette semaine, la planète a connu ses journées les plus chaudes jamais enregistrées. 17,01 degrés lundi, un record battu dès le lendemain avec 17,18 degrés.
Non, je ne veux pas marier quelqu'un qui doit normalement quitter le territoire. C'est un geste important, le mariage. Je ne vais pas me prêter à cette comédie-là.
Vous avez remarqué, le débat sur les retraites, c'est fini, c'est terminé. Une colère, un drame ou parfois des réactions politiques en ont chassé d'autres. En tout cas, raté les 100 jours pour apaiser le pays. Reste que dans le dossier retraite, parce que oui, je le réouvre. Si on parle de la retraite et des femmes, en particulier des mères, le débat, il a été difficilement audible, je trouve. Noyé sous des promesses, sous des chiffres, sous des histoires de trimestres soi-disant cadeaux, sous des représentations sexistes aussi. Elles ont qu'à pas faire d'enfants, mais c'est leur choix d'arrêter de travailler ou de travailler moins, il faut assumer. Je me suis faite la réflexion qu'on avait en tout cas peu entendu des femmes raconter leur parcours et l'impact d'être femme, mère pour certaines, sur le départ à la retraite et le niveau de la pension. Raconter aussi la douleur que représentent 2 années de plus au travail. Alors je prête ma voix aujourd'hui à l'une d'entre elles, et pas n'importe laquelle, puisque c'est ma mère, c'est celle qui m'a faite. Maman, elle a grandi dans une famille d'agriculteurs dans le pays de Vitré. À la sortie du collège, elle se dirige vers un apprentissage en coiffure. C'était ça ou prendre la direction du gros abattoir du coin. L'apprentissage, c'est une partie cours, une partie en entreprise. Et à l'époque, elle travaille 42 heures par semaine.
Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Seul, il est devenu des milliers qui marchent émerveillés dans la lumière éclatée. Regarde, on a envie de se parler, de s'aimer, de se toucher et de tout recommencer.
En 1981, Barbara chante Mitterrand et ma maman, elle a son CAP en poche, elle a 17 ans. Elle trouve tout de suite un emploi dans un salon de coiffure et elle y restera 3 ans. Puis voilà l'heure du CDI dans un nouveau salon, cette fois direction Saint-Malo. Ça fait 2 ans qu'elle y travaille lorsqu'elle a son premier enfant, c'est mon grand frère. Un bébé prématuré qui commencera sa vie avec une petite santé un peu fragile, il s'est bien remis depuis, je précise. Le congé parental à l'époque, il n'existe pas, il est en fait sur le point d'entrer en vigueur en 1986, c'est dur de s'imaginer aujourd'hui. Il reste donc le congé sans solde, 1 an pendant lequel maman n'est pas rémunérée et ne cotise pas pour sa retraite. Elle le fait pour prendre soin de son premier enfant. Le retour au salon de coiffure, il est vécu difficilement. Mes employeurs ne souhaitaient pas que je revienne, m'explique-t-elle. Elle y retourne quand même pour 4 années de plus. Stress, harcèlement moral de l'employeur, conditions de travail difficiles. Maman démissionne, on est au début des années 90, et elle perd tous ses droits. Et cerise sur le gâteau, une cerise au goût amer, une clause de concurrence lui interdit d'exercer son métier dans un salon à 30 km à la ronde, très pratique pour retrouver du boulot. On est en 1991 et c'est le moment où moi je ramène ma fraise. J'arrive en 1992, enceinte, maman met sa recherche d'emploi entre parenthèses. Papa fait alors ses 2 premières années dans le secteur de la cuisine en collectivité, dans la fonction publique. Et pas le choix, ça se passe à Paris. Il ne revient alors que tous les 15 jours à Saint-Malo. Maman choisit de nous consacrer 2 années de sa vie. Elle endosse le tablier de la mal estimée femme au foyer. J'ai 2 ans lorsque papa est muté à Rennes. Nous déménageons pas très loin, en pays de Châteaubourg, et maman trouve aussitôt un travail dans la commune. Un remplacement qui débouchera sur un CDI sur la période 1994-2002.
Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge.
2002, c'est l'année où Bernard Lavillier chante pour les ouvriers de l'industrie. C'est aussi l'année où arrive le petit dernier, mon petit frère. Maman enchaîne congé maternité et congé parental sur une durée de 2 ans. Un congé qui n'en est pas vraiment un puisqu'elle se forme pendant cette période dans l'idée de se reconvertir parce qu'elle a un problème de santé à une jambe qui l'empêche dans son métier de coiffeuse, toujours debout avec des tendinites à répétition, et parce qu'elle voulait faire plus dans l'humain aussi. Fini la coiffure, elle devient assistante maternelle, profession qu'elle exerce toujours aujourd'hui. Elle a toujours accueilli depuis bientôt 20 ans entre 2 et 3 enfants à son domicile, de 0 à 3 ans, plus de 45 heures par semaine. Peu de répit dans ce métier, si ce n'est sur le temps de la sieste et encore. Et puis on le redit, une assistante maternelle, ça ne gagne pas un SMIC par enfant.
Une assistante maternelle gagne en moyenne un SMIC par enfant gardé. C'est-à-dire qu'en général, on l'en garde à l'engard de 3. Donc c'est erroné de dire qu'une assistante maternelle, 3 SMIC en moyenne. Oui, monsieur, 3 SMIC.
Non, monsieur, c'était le ministre des Solidarités, je crois, hein, qui s'exprimait en ce début d'année 2023 sur le sujet. Alors, ma maman, même si elle a 14 trimestres validés avant ses 20 ans, les ruptures dans le parcours, dans son parcours qui est propre mère de famille, l'empêchent de bénéficier du dispositif carrière longue, même si, on le rappelle, elle a commencé en alternance à 17 ans. Ce sera donc un départ en retraite à 62 ans pour elle, avec 1 205 € bruts par mois. Peu pour une vie de labeur, c'est ce qu'elle m'écrit. En enlevant l'année de congé sans solde et les 2 années comme mère au foyer, j'arrive quand même à 44 ans de cotisation. Je précise que je n'enlève pas les congés maternité et parentaux dans mon calcul, des périodes durant lesquelles le parent cotise et qui peuvent lui ouvrir le droit à des trimestres en cas de départ trop tardif à la retraite. Le constat, c'est que maman, elle va avoir 60 ans l'année prochaine et que son corps est fatigué. Elle découvre ces derniers temps les fractures de fatigue, un pied, puis l'autre. Elle découvre qu'elle a aussi de l'ostéoporose. Elle devrait moins porter les enfants dont elle s'occupe, réduire ses horaires de travail. Mais les parents employeurs comptent sur elle et elle veut bien faire les choses. Pour la soulager, la caisse d'assurance retraite lui propose donc de cumuler emploi et retraite. Mais encore faut-il trouver des parents employeurs à la recherche d'un temps partiel, ce qui n'est pas courant dans cette profession.
Negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer coronitas para ti.
En tant que femme, j'ai l'impression de n'avoir jamais cessé de travailler, assumant l'éducation de mes enfants. Petite parenthèse, là, avec ma voix, mon papa avait un travail qui lui imposait des déplacements professionnels réguliers pendant 1 à 3 semaines. L'éducation, mais aussi l'entretien de la maison, la cuisine, les rendez-vous médicaux, les activités extrascolaires, le bénévolat, la charge mentale, etc. Je vous laisse avec ces mots de ma maman, qui pourtant ne regrette pas ses choix, puisqu'elle a fait de ses enfants sa priorité. Elle a travaillé, commencé tôt même. Elle a connu 2 secteurs féminins peu valorisés, intégré qu'il fallait travailler pour bien vivre. Et elle a rebondi, voulu faire les choses bien. Elle y a esquinté son corps, tiré sur la corde. Et au bout, la promesse d'une retraite correcte, en dessous du SMIC pourtant. Et puis là, eh bien, avec cette réforme des retraites qui est passée à coup de force, hein, eh bien, on lui dit plus longtemps, et elles sont des milliers fatiguées comme ma maman, à cristalliser, c'est ça qui est intéressant, dans le fil de leur vie, un cocktail d'inégalités qui sont liées au fait d'être née fille.
Merci Lucie, merci pour les poils. Eh ben, il fallait attendre pour la faire cette chronique et je ne regrette pas et j'imagine que vous ne regrettez pas. On embrasse votre maman, on pense à toutes celles qui effectivement avec cette retraite faite par des incompétents puisque dans l'extrait que vous passez, on l'entend, un ministre qui n'est pas capable de connaître la rémunération des assistantes maternelles qui nous parlent de SMIC par enfant gardé, enfin, c'est un vrai scandale et on pense à toutes celles mais aussi tous ceux qui ont des métiers pénibles qui vont devoir travailler plus pour gagner moins au final. On va en écouter une de bonne femme, une sacrée bonne femme. Elle s'appelle, c'est une chanteuse, enfin elle est devenue chanteuse sur le tard, elle s'appelle Colette Mani. Mais je vous en prie, Lucie, allez-y, servez-vous. C'est la dernière, c'est l'été, on a amené quelques trucs en plateau. Oui, alors voilà, je voulais vous faire écouter Colette Mani. Colette Mani, elle aimait bien beugler, c'est elle qui le dit. Elle a pris le micro pour chanter sur le tard. Elle était communiste, elle a été censurée parce que dans ses textes, dans les années 70, elle disait des choses qui ne plaisaient pas. Et je trouve que cette chanson que je vais vous faire écouter, ben, elle résonne bien aujourd'hui, ça s'appelle Répression.
Bah tiens.
Répression, répression, répression. Alors, on garde son sang-froid ? Aïe, oh, pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant ! Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers! Si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fous.
Répression, répression, répression.
Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression. C'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel. Respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie.
Répression, répression, répression.
Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro, sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses bonbons. Mais attention, attention, attention. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, encombrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité.
Répression, répression, répression.
Clac ! Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops ! Hein ? Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux ? Bla 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 bla. Vite! La masturbation rend fou. Oh, vrai ou faux? Plac! Coup de grisou chez les mineurs. Ils sont en danger. Arakiririkira, arakiririkira, arakiririkira le dernier. Chez les colonels, on peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison, ou si flotter n'importe quelle connerie de la télévision, on nous mettra pas en prison. Ah, mais non, ah, mais non.
Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on?
C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse. Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps.
Suspicion, suspicion, suspicion.
Vous êtes présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. Vous êtes présumé coupable par le juge d'instruction. Attention, attention, va-t-on, va-t-on. Et si ça continue comme ça, un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue.
Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on. Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on.
Eden.
Alors ça donc, c'était Colette Mani et son titre Répression, une sacrée gonzesse, Colette Mani. Si vous avez l'occasion d'aller regarder les images d'archives sur des interviews qu'elle a pu faire et d'aller écouter ce qu'elle chantait, ses textes, c'est assez fort. Donc elle a été censurée, hein, elle n'a pas fait de carrière, d'ailleurs enfin on la connaît très peu, mais voilà, moi j'avais envie, un peu en résonance à ces six premiers mois d'année, passer répression. Oui, Marine, je vous en prie.
Ça s'écrit comment, son nom de famille?
Alors, ça s'écrit M comme maman, A comme Anna,
G... Forcément.
G comme Germain, N comme Nichon et Y comme Yuna. Voilà, Mani.
Merci.
Colette avec deux T. Et bien justement, Marine, lâchez rien, c'est à vous, parce que là, et là c'est du lourd aussi, après les chroniques de Suzanne et de Lucie, le 10 juillet dernier, Marine, vous étiez là, tout de suite, hein, il y a 4 jours, vous avez animé un atelier sur l'égalité femmes-hommes, jusqu'ici, rien d'étonnant, mais avec les détenus de la prison de Rennes et des détenus de la prison de Vezin, et ce n'était pas la première fois, racontez-nous ça.
Alors, en effet, alors, je me permets de remettre dans le contexte, depuis 2020, le SPIP 35, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, met en place 2 fois par an des ateliers genre au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et au centre pénitentiaire pour hommes de Vezin. Donc, j'anime les ateliers en tant que rédactrice en chef de la revue féministe IEG et en tant que journaliste spécialisée dans les féminismes et questions de genre et d'égalité. Et Célian Ramis, photographe et cofondateur de la revue avec moi, intervient en qualité de technicien son. Par l'enregistrement des propos et l'écoute des montages sonores à chaque début de séance, on opère en fait une mise en dialogue entre les participantes et les participants. Donc, elles entendent une partie des échanges ayant eu lieu, elles répondent et poursuivent la discussion en groupe. Et ainsi de suite pendant 5 semaines. Et pendant 5 semaines, on va traiter de 5 thématiques essentielles à la compréhension de ce qui fonde et ce qui structure les inégalités entre les hommes et les femmes.
Et est-ce qu'on peut connaître les thèmes, Marine?
Oui, on parle stéréotypes et éducation genrée, on parle orientation professionnelle et plafond de verre, charge mentale et violence conjugale, répartition genrée dans l'espace public et violence sexiste et sexuelle, mais aussi représentation du féminin, du masculin et de la virilité. On part toujours de leur vécu, de leurs ressentis, réflexions et questionnements pour en venir à la dimension systémique du sexisme et du patriarcat. L'idée, c'est de pouvoir instaurer et de faciliter cette mise en dialogue entre les femmes et les hommes, mais aussi d'apporter au fil des échanges des pistes de réflexion et des outils d'analyse autour de l'égalité femmes-hommes.
Et là, si je comprends bien, lundi dernier, la rencontre avait lieu en direct pour la première fois à la prison des femmes de Rennes. C'est inédit comme événement.
Oui, tout à fait. En fait, on l'a déjà fait une première fois en septembre dernier avec le groupe qui avait suivi la session de juin-juillet et ça s'était hyper bien passé. Mais vous avez raison, Morgane, c'est inédit parce que ça n'a jamais été fait en France d'organiser une rencontre en face-à-face comme ça avec des détenus hommes et des détenus femmes pour les faire parler d'égalité femmes-hommes. Donc ce 10 juillet, c'était 4 hommes ayant participé aux ateliers en avril-mai dernier qui sont venus rencontrer et discuter avec 8 femmes ayant participé elles aussi aux ateliers d'avril-mai. Pendant 2 heures, il et elle ont pu, grâce au montage proposé, revenir sur différents points de désaccord, d'accord ou même d'incompréhension. On va pas se mentir, c'est hyper intense comme moment. En séance interposée, on le ressent fortement, il y a un grand besoin et une volonté de parler, de s'exprimer sur ces sujets-là, parce qu'il et elle, en fait, n'ont pas l'habitude de ça et encore moins l'opportunité d'être invités à donner leurs avis à ce propos. Donc pendant 5 semaines, il et elle ont entendu les voix du groupe d'en face et là, c'est le moment de mettre un visage sur une voix, et au-delà de la voix, c'est aussi de mettre un visage sur un discours. Donc au moment du débat en face à face, il n'y a pas le filtre de « je ne sais pas face à qui je suis, je ne sais pas à qui j'ai affaire ». Les échanges, ils étaient vifs, ce qui ne veut pas forcément dire agressif, mais c'était un sacré ping-pong verbal qui s'instaurait dans la salle, pour débattre autour de la poupée, toujours, des différents jeux pour les enfants, de l'influence des adultes sur le genre que l'on attribue aux jouets. Pour débattre autour de l'impossibilité ou de la possibilité, selon les uns, une et les autres, de concilier vie familiale avec enfants et carrière incluant des hauts postes à responsabilité, mais aussi pour débattre autour des mécanismes insidieux de la violence au sein d'un couple et de mesurer, bien sûr, l'ampleur du spectre que représentent les violences conjugales, allant de l'insulte au viol en passant par l'emprise psychologique psychologique, la dépendance économique ou encore les coûts sur le corps.
Vous le vivez à fond et les participants, participantes aussi. Est-ce que les lignes bougent, Marine ?
Oui, elles bougent. On ne peut pas, après, s'attendre à un changement radical des mentalités. Juste le fait de dialoguer sur les différentes thématiques crée un effet. Ça met en place une réflexion, un premier pas, une dynamique. On rentre en fait dans l'action quand on se place comme ça dans un débat, d'abord interposé, puis en face à face. Ça laisse pas indifférent ou indifférente, ça c'est certain. Toutefois, on est obligé de prendre en compte le contexte aussi de la détention, qui peut être marqué par des rivalités, des enjeux de virilité et des enjeux aussi avec des complexes et des jalousies. On retrouve dans cette micro-société beaucoup de stéréotypes et de clichés à déconstruire. D'où l'importance d'aller recueillir leur avis, leur demander ce qu'ils et elles en pensent et les mettre en position de discussion et de débat. On sent que ça les intéresse et en plus que ça les valorise. On est parfois loin d'être d'accord, même. Franchement, je peux dire que souvent, je ne suis pas d'accord avec les propos. Mais tout l'intérêt, c'est de pouvoir s'interroger, de pouvoir creuser les réflexions, se demander d'où viennent nos représentations collectives et ce qu'elles disent de la société. Alors oui, les lignes, elles bougent doucement, très doucement, mais elles bougent. Et elles bougent parce qu'il y a une volonté. On ne va pas se mentir, il y a des personnes qui viennent aux ateliers et qui ne sont pas réceptives du tout ou même qui ne sont pas en capacité d'opérer la prise de recul que l'exercice exige. Mais ça, c'est hors cadre de la détention, parce que dans la société, tout le monde est un peu comme ça. Mais beaucoup reviennent semaine après semaine et témoignent du besoin de parler et en filigrane d'exprimer des peurs, des doutes, des angoisses, des colères, bref, des émotions qui sont plus ou moins fortes selon les personnalités et les parcours de vie. Donc on n'assiste pas à un miracle, mais on assiste à un premier pas vers la prise de conscience.
Merci beaucoup Marine, merci beaucoup pour cette chronique, merci beaucoup de faire ces ateliers et de venir en témoigner. Bien sûr, on pourra prochainement lire un article sur le sujet dans la revue féministe YEG sur yegmag.fr. Lucie, je vous en prie.
J'ai levé le doigt.
Ouais. C'est vrai qu'on lève
sagement,
le doigt aujourd'hui.
Ouais. Hein. Ouais. C'est moi la
J'avais une question
de conférence.
Une question sur les outils les plus efficaces pour déconstruire les stéréotypes sexistes. Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est d'amener du témoignage, c'est d'amener des chiffres, c'est d'amener des recherches de sociologues, etc. Qu'est-ce qui fonctionne ?
Je pense qu'il y a le tout quand même qui les amène à s'interroger puis vraiment se mettre en position d'écoute de la parole de l'autre, ce qui est vraiment, vraiment pas facile à faire. Mais souvent, en fait, ce qu'on remarque, c'est vraiment je dis « il » pour le coup au masculin parce que c'est vraiment beaucoup plus les hommes qui s'interrogent sur pourquoi. Enfin, les femmes, elles ont les vécus, donc elles, voilà, avec les différents témoignages et des vidéos qu'on peut apporter ou notre expertise, elles font la mise en perspective elles-mêmes. Les hommes, ils ont vraiment besoin qu'on leur explique en fait ce qui fait que c'est systémique dans la société. Donc en fait, pour le coup, moi, j'avais vraiment l'idée de leur amener beaucoup de matière avec des vidéos et voilà, en faisant très attention aussi à ce que ce soit des hommes, des fois, qui témoignent de l'égalité femmes-hommes et de ce qu'il faut mettre en place pour déconstruire les stéréotypes. Mais en fait, je crois ils ont besoin quasi d'un cours magistral sur les inégalités et ça fonctionne assez bien.
Ça fonctionne assez bien et sur le long terme, quoi. Il faut revenir.
Ah oui.
Parce
faut répéter.
Que en complément de l'article qu'on retrouvera dans YEG, je repense à ce documentaire de Mélissa Theuriot. Enfin, en tout cas, elle en est la productrice. C'est pas elle en tant que journaliste qui l'a fait, mais elle en est la productrice sur justement le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, sur les hommes violents et où sur certains on voit le dispositif ou le processus qui avance au fur et à mesure et qui fait qu'ils changent un peu, enfin qu'ils changent, qu'ils prennent conscience des violences, parce que là ce sont que des hommes violents qui ont commis des violences sexuelles et sexistes, donc et c'est vraiment long dans la dans ce processus là. Ouais, Lucie, vous vouliez non, pas du tout, vous ne vouliez pas ajouter quelque chose?
Non, j'allais dire merci.
Ouais, merci, merci Marine. On va se faire une nouvelle pause musicale avec une chanson également parfaitement choisie pour cette émission Les Héroïnes. Coco Aikura, elle chante La Petite Boîte Noire.
Je vous raconte une histoire d'une petite boîte noire bien fermée au fond du cœur. Une histoire de nos vies qui nous ne devenait pas. En tout cas, on se bat, on l'espère. On se pose des questions, est-ce que j'exagère ou pas? Comment puis-je être aussi naïf? Est-ce peut-être ma faute, car je porte une jupe? La honte, la gêne ou comme ils disent la pute. Mais j'en ai marre de ces gens qui les là, ça va. J'en ai marre, on en a marre. Car à 12, 16, 20, 30, banalité fatale. Et non, ce n'est juste pas normal. Au moralisateur, bourré de fierté. Les fantômes de la société. À tous ceux qui font peur, c'est à vous de changer. On va vous déshabituer. C'est à vous que je parle, prédateur, spectateur. On n'est pas à votre service. Et c'est à nous que je parle, qui sommes tous concernés. Arrêtons d'avoir la tête tournée. Car j'en ai marre de ces gens qui les oh-là-là, ça va. J'en ai marre, on en a marre. Car j'en ai marre de ces gens qui les ça n'arrivera pas. J'en ai marre, on en a marre. Car à 12, 16, 20, 30, banalité fatale. Et non, ce n'est juste pas normal. J'en ai marre de ces gens qui les rolala, ça va. J'en ai marre, on en a marre. Car j'en ai marre de ces gens qui disent ça n'arrivera pas. J'en ai marre, on en a marre.
Donc ça c'était Coco Aikura avec La Petite Boîte Noire. Sur Canal B dans Les Héroïnes. Alors moi, j'avais envie de vous parler de la contre-attaque du patriarcat. La riposte à MeToo qui ne s'est pas faite attendre et qui est plutôt agressive. En mai dernier, le magazine Télérama numéro 3826 titrait « Les droits des femmes attaquées » et listait quelques-uns des assauts de cette riposte qui, depuis 2020, répondent au mouvement féministe d'émancipation et de libération de la parole. Alors je vais vous en citer 5, ben, la nomination de Gérald Darmanin à Place Beauvau, le décret forçant les femmes à écouter le cœur du fœtus avant d'avorter en Hongrie, la condition des femmes iraniennes et afghanes, l'interdiction de l'avortement aux États-Unis et en Pologne, où, je le rappelle, des femmes meurent parce qu'on refuse de les avorter même quand leur vie est en danger. Et les attaques des masculinistes contre Amber Heard, la mauvaise victime, vous savez, celle qui ne s'est pas laissée faire, celle qui ne s'est pas laissée taper dessus par Johnny Depp sans répondre. Alors, il n'y a pas que nous et Télérama à constater et à s'inquiéter de la remise en cause de nos droits et de nos paroles. Il y a aussi Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui s'en alarme vivement et a déclaré lors de l'ouverture de la commission de la condition de la femme en mars, les progrès réalisés au fil des décennies s'évanouissent sous nos yeux. L'égalité des genres est un horizon de plus en plus lointain. ONU Femmes estime qu'au rythme actuel, il faudra attendre 300 ans avant de l'atteindre. Le patriarcat contre-attaque, mais nous ripostons. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de l'ONU. Alors, pas besoin d'aller jusqu'à l'ONU pour être quotidiennement confronté à cette régression, à la remise en cause des combats féministes, des droits des femmes, des avancées obtenues. La dégradation des conditions de vie des femmes, ce sont les violences domestiques, conjugales, sexistes et sexuelles, qui ont explosé pendant et depuis la pandémie. Et la régression des droits des femmes, ce sont les coupables qui sont à peine punis. Je vous invite, pour cela, je vous en ai déjà parlé, à aller regarder la page Instagram d'Andrea Bescon et ses fameux posts noir. Vous verrez que notamment en termes de pédophilie, de pédocriminalité, on ne prend que du sursis quand on est jugé et que bah, en France, pour une canette de soda, on se prend du ferme. Voilà où on en est. Alors, ce sont aussi le harcèlement et le cyberharcèlement qui se répandent toujours plus. C'est la remise en cause de l'IVG, voire sa suppression. C'est la remise en cause de la parole des victimes. Et ça, c'est souvent, c'est trop souvent. Parce que dans nos sociétés, c'est normal de remettre en question 15, 20, 30 femmes qui disent la même chose en les traitant de folles, d'hystériques, de menteuses, voire de profiteuses. On se demande bien de quoi elles profitent. La présomption d'innocence prime sur la présomption de vérité. Mais ça, c'est parce qu'en fait, ce ne sont pas les femmes les victimes. Non, non, non. Attention, update, breaking news, roulement de tambour. Ce sont les hommes, les victimes. Et oui, c'est pas nous. Et certains ne se privent plus de le hurler. On ne peut plus rien dire, les relations femmes-hommes sont anéanties, il y a de la censure et nous on est paumés, on ne sait plus comment faire, comment se comporter. Vraiment, on ne peut plus rien dire. Et puis, on n'est pas tous comme ça d'abord. Et puis qu'elles aillent voir en Iran ou en Afghanistan, c'est con. Les féminismes les tuent, ces pauvres hommes. Ben voyons. Mais si on peut plus dire du caca sexiste, bah nous, en fait, ça nous va très bien. J'adore le « on ne peut plus rien dire » dans la bouche de ceux qui l'ouvrent depuis toujours, qui monopolisent la parole et l'espace public. Mais ça, c'est la stratégie du lâche et du feignant, de celui qui ne veut pas réfléchir au-delà de son petit confort, de son image de marque, de son nombril, incapable de remettre en cause un système. C'est le stratagème de celui qui ne se sent pas concerné, parce que pas lui. C'est l'attaque de celui qui ne se focalise que sur les éventuels impacts négatifs qu'un homme accusé de violence ou simplement dénoncé comme sexiste pourrait subir sur sa vie et les éventuels dommages collatéraux sur ses voisins mâles. Peu importe ce que dit la victime, peu importe ce qu'elle vit, on s'en cogne de la victime. Remettre en cause un système de domination, de discrimination, de violence, c'est trop compliqué, trop fatigant quand on peut juste placer un « on peut plus rien dire » offusqué. C'est bien plus simple, voire simpliste, de remettre en cause les combats féministes que de se remettre en cause soi-même, de chercher à comprendre pourquoi en tant qu'homme, notamment, parce que pas que, hein, y a des femmes aussi, on se sent ébranlé par la libération des paroles des femmes, de chercher à comprendre ce que cela dit de notre société. Il est tellement plus simple de mettre ça sur le dos des femmes et des féministes, radicales et hystériques bien sûr, plutôt que d'essayer d'appréhender les choses et de changer ou d'aider au changement. Ce discours, on l'entend de plus en plus, c'est assez insupportable en fait. Associé à la régression des droits des femmes et de leurs conditions de vie, on appelle ça le fameux backlash. Le contre-coup, le retour de bâton, la contre-offensive, la revanche, le retour en arrière, comme un violent et nauséabond reflux, appelez-le comme vous voudrez. C'est sous le nom de backlash qu'il a été décrit et analysé par la journaliste américaine Suzanne Faludi en 1991 dans son ouvrage « Backlash, la guerre froide contre les femmes ». Alors à l'époque, pour ne citer que cet exemple, Ronald Reagan, alors président des États-Unis, accusait les femmes actives d'être responsables du chômage aux États-Unis. Ça, ce n'était que le début et c'était encore pas trop méchant parce que le backlash du mouvement MeToo que nous vivons aujourd'hui, Je le répète, c'est la suppression du droit à l'avortement. Ce sont les masculinistes conservateurs réac et décomplexés qui passent à l'offensive en faisant de leur combat contre les femmes et surtout les féministes une obsession, un graal. Il faut leur faire fermer leur bouche, les anéantir. C'est la culture du viol entretenu, voire glorifié. Ce sont des violeurs impunis, des agresseurs protégés et des victimes malmenées. Ce sont des féminicides qui ne diminuent pas. Au contraire, c'est une réaction stupide, ringarde et agressive. C'est tellement décevant et tellement désagréable. Bah, sauf que cette fois, on sait. Cette fois, on est prête. L'expérience nous a maintes fois démontré que lorsqu'on ouvre nos bouches nous, pour dénoncer des discriminations, des violences, pour dénoncer simplement le sexisme, on se prend une volée de bois vert dans la tronche. Donc maintenant, on sait, on est prévenu et une femme avertie en vaut deux. Nous n'allons donc pas nous taire, bien au contraire. Nous vivons ce contre quoi Simone de Beauvoir nous avait mis en garde. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Et bien nous, nous restons vigilantes. Voilà. Ouais, j'ai loupé mon roulement de tambour. Hein. Dommage, vous le revoulez.
Allez.
Il était beau.
Il était beau, hein, pourtant. Bon, ben voilà, ça, c'est les aléas quand on est en studio. On va se quitter pour aujourd'hui avec un dernier... Vous vouliez ajouter quelque chose, Lucie? Un conseil pour l'été? Un conseil lecture, un conseil.
Comme ça.
Ouais. Et là, tu peux pas lâcher le body summer, tu vois? Ça casserait toute l'émission.
T'as un body, c'est le summer.
Voilà.
T'as ton body summer. Moi, voilà. C'est ce que je pense.
Ton summer body.
Summer body. Ok. Bah, c'est le summer. T'as un body. Et bah, t'es prête pour l'été. Moi, je vois que ça. Non, j'ai pas un conseil lecture, un conseil. J'allais dire boisson. Qu'est-ce qu'on boit l'été?
Écoute, tu peux boire un petit coup de vin blanc. Moi, en ce moment, je lis Faute de preuve de Marine Turki et c'est hyper bien.
Marine Turki, qui est journaliste à Mediapart.
Tout à fait.
Et excellente journaliste d'investigation à Mediapart. Donc, c'est un conseil lecture.
Ouais, c'est trop bien.
Lucie?
Je tiens la série conseillée par une personne de l'équipe de Canal B, Lâcher prise, qui est une série québécoise et qui parle de burn-out au féminin. Et c'est assez drôle.
Et ça serait pas un certain YA2N qui vous l'aurait conseillé?
Je crois que c'est YA2N.
C'est ça.
Et c'est à voir sur France.tv en accès libre.
Et moi, j'ai envie de dire pour ceux et celles hein, qui ont des enfants au collège, que sur la plage, on peut lire aussi un livre qui s'appelle « L'amour, la sexualité, on s'en parle ». Pas avec un point d'interrogation, mais un point d'exclamation, ce serait pas mal.
Hein, ouais,
franchement, pour bien préparer l'été. Moi, je vais conseiller, comme ça me vient là, c'est très très bizarre, la lecture de Normal People. Voilà, avant d'aller voir la série, on va se lire sur la plage. Pas mal, hein?
Je l'ai pas lu.
Mais t'as vu vous avez vu la
oui, bien la sûr, série. Très cher collègue, j'ai vu la série.
Bon, on va se quitter avec un dernier morceau de musique, Jackie and Wood, Love She Said.
They found her walking along the freeway at the white winter sun was rising in the sky. She didn't sober up, she didn't want to anyway. She didn't want or care. She had a headache, knees full of scars. She's in mud all around, but she stands in the advancing light as if to say, see what you've done to me, see what you've done to me. She usually
Jackie Ann Wood, Love She Said, sur Canal B dans les héroïnes. Là, vraiment, on va se dire au revoir. Merci Marine, merci Lucie, merci Suzanne d'être venue tout au long de cette saison. On vous retrouve la saison prochaine. Georges demande en plein, limite en plein direct, c'est horrible quoi. Avec couteau sous la gorge.
Hein. J'ai pas le choix, moi, je fais partie de l'équipe de Canal B.
Tu fais partie des murs. Alors, je sais qu'Emma, qui n'était pas là aujourd'hui et qui le regrette, Emma, si tu nous entends, reviendra parce qu'elle n'a pas beaucoup eu le temps cette année avec son master, mais elle se met en année de césure, donc elle a très envie de revenir de façon beaucoup plus intense et régulière. Voilà, non, mais je ne vous demande pas de me répondre maintenant, c'était pour nos auditrices.
Si, mais on sera là, t'inquiète pas.
Et nos auditeurs, bon. Je vous remercie, je vous souhaite un très bel été et ben à la saison prochaine. Salut.
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 Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.